Brume 90.7 direct, il est 18h30 et c'est l'heure de notre confluence hebdomadaire consacrée au cinéma. Je suis dans les studios avec Raphaël Lorenzo. Un peu plus tard, nous serons rejoints par Hakim Zdaouche. Salut Raphaël.
Bonsoir à toi Amaury, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, on a pas mal de choses au niveau cinéma, programme cinéma. Dans la seconde partie, on reviendra sur Le Hobbit, le dernier volet.
C'est l'un des gros films les plus attendus de la fin d'année en tout cas.
Dans une troisième partie, on vous parlera des films alors autour des animaux. Alors c'est assez vaste, assez large. On vous parlera de quelques films en réponse au film que je vais chroniquer qui s'appelle White God et qui est un film que moi j'ai trouvé assez bien fait et assez prenant. Et c'est une sorte de révolte de chiens errants qui prennent le pouvoir dans la ville. Donc voilà, troisième partie un petit peu sur les films qui sont dans cette tendance-là. On vous parlera des oiseaux, d'Hitchcock, des Dents de la Mer, de Cheval de Guerre, de quelques films comme ça. Et dans un premier temps, Raphaël, tu vas nous parler d'un film que tu as beaucoup aimé, je crois, autour des relations familiales, des nouveaux médias sociaux aussi.
C'est ça, un film de Jason Reitman, qui est le fils de Ivan Reitman, le célèbre metteur en scène de SOS Fantôme, de toutes ses comédies avec Bill Murray. Hein. Et son fils, finalement, devient progressivement un metteur en scène de films indépendants. On l'avait découvert avec un très bon film qui s'appelait Thank You for Smoking, sur les lobbies du tabac, avec Aaron Eckhart, un film très très bien écrit, très très drôle, très acide surtout sur le tabac, sur ce milieu-là, sur l'industrie. Hein. Il a fait plusieurs trucs par la suite, un très très bon film qui s'appelait Juno, une sorte de tentative de modernisation du teen movie dans un côté plus adulte avec une jeune fille.
Une jeune fille qui tombe enceinte, ouais, c'est
à
ça,
16 ans.
C'était très bien ce film.
C'était très très bien, c'était très juste, c'était très sensible surtout. Et il avait fait un film par la suite avec, je ne l'ai pas vu celui-là, avec George Clooney, qui s'appelait In the Air, sur un homme, un commercial qui n'arrêtait pas de voyager comme ça, qui n'avait pas de relation amoureuse. Et là, Jason Reitman, qui commence vraiment à se faire un nom progressivement dans ce milieu-là, revient avec un film qui s'appelle donc, Men, Women and Children, hein, avec un casting vraiment super hétéroclite, avec il y a Adam Sandler, un acteur que j'aime beaucoup, qui vient de la comédie américaine. On retrouve Dickie Simon, avec qui il avait tourné Juno, qui joue le père de la jeune fille. Il y a Jennifer Garner, il y a toute une ribambelle comme ça de jeunes comédiens qui sont vraiment très très bons. On retrouve, toi qui es fan de Breaking Bad, Hank Schrader, tu sais, là, le beau-frère.
Oui, j'ai vu dans la bande.
Ah ouais, il est très très bon, hein, dans un père un peu déboussolé. Et le film va mettre comme ça en lien comme ça tout un pan de destin comme ça. Donc il y a plein de destins, des ados comme ça au lycée, on suit des parents un petit peu désœuvrés, et tout le fil rouge du film finalement c'est les nouveaux moyens technologiques. Donc on suit les iPads, les iPods.
Voilà, parce que déjà, alors moi j'ai vu que la bande-annonce personnellement, mais c'est vrai qu'elle est déjà assez prenante avec toute une construction justement autour de... Enfin, au début, on a presque l'impression que c'est une pub pour Apple, quoi, avec des gens qui pianotent et tout ça. Puis rapidement, dans la bande-annonce en tout cas, on s'aperçoit que c'est aussi justement comment c'est devenu une part de nos vies finalement,
c'est
dans les relations
ça.
Humaines, dans la relation aussi à son travail, à ses activités.
Donc Twitter, Facebook, YouTube, même les sites porno aussi.
Dans le fait qu'on peut se cacher aussi, j'ai l'impression
c'est ça,
qu'il y a
hein.
un peu ça aussi, cette vie.
C'est paradoxal, se cacher mais en même temps en s'exposant constamment. Quoi. Et le film justement joue très très bien là-dessus, sur cette ambivalence-là, sur différents aspects. Par exemple, tu as une mère très autoritaire jouée par Jennifer Garner qui regarde tous les messages de sa fille, qui vérifie son Facebook constamment, qui vire les messages de ses petits copains, etc. Et tu as au contraire une mère qui est très laxiste, qui met... sur le devant de la scène, sur un site limite porno, sa fille qui est mannequin, elle se rêve en star de télé-réalité, et on sent qu'il y a vraiment une sorte de traumatisme chez la mère qui voulait être célèbre, tu vois ce que je veux dire.
Ouais,
et ce qui est très malin, c'est qu'on voit vraiment tous les aspects, toutes les générations par rapport à ces technologies. Il y a Adam Sandler qui est très très bon. Adam Sandler qui est un comique que j'aime beaucoup, mais qui sait être grave, hein. Il a tourné pour James L. Brooks dans le très très bon Spanglish, dans Punch Drunk Love aussi de j'ai oublié son nom, Anderson, Paul Thomas Anderson, ou bien dans Funny People de Judd Apatow. Hein. Et là, il refait encore un personnage un peu doux amer, qui ne comprend pas pourquoi sa femme ne veut plus coucher avec lui. Il se masturbe constamment sur le PC de son fils, sur les sites porno. D'ailleurs, il y a Tori Black. Encore un bon point pour moi, qui aime beaucoup Tori Black. Et donc, comme ça, tu as des très bons gags, c'est bien senti. Et progressivement, justement, le film délaisse toutes ces technologies, délaisse les portables, délaisse l'ordinateur, parce que tu comprends qu'au fond, c'est pas ça le principal, au fond. Le principal, c'est vraiment les relations humaines, ce qui nous relie, ce qui nous lie vraiment avec les gens, quoi. Et progressivement, on va voir un peu les motivations s'effriter. On va voir chacun comment ils vont évoluer. Il y a même, par exemple, une gamine qui est complètement anorexique, elle est complètement amoureuse du beau gosse du lycée, et progressivement, elle veut coucher avec lui, elle va tomber enceinte. Donc, tu vois, il y a tout comme ça un cheminement de destin qui est vraiment génial. Et moi, ça m'a fait penser vraiment au meilleur de Robert Altman. Tu sais, le cinéma des 70s, très indépendant, un cinéma choral comme ça à Los Angeles, où on voit plein de destins. Et là, ce qui est très intelligent, c'est qu'il a mis ce côté très 70s avec un côté très 21e siècle, quoi. Et le film démarre.
J'ai l'impression qu'il filme aussi très bien les adolescents, parce que c'est vrai que sur Juno, on se rendait compte qu'il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et là, sur le peu que j'ai vu de ce film, on ressent aussi que ça, c'est important chez lui, et qu'il arrive à capter comme ça cet âge de vie, entre adolescence et jeunesse, quoi.
Et surtout, il ne te montre pas qu'un cliché de l'adolescence. Il te montre plein d'adolescents différents, quoi. Tu vois, t'as la fille un peu déboussolée, qui est un peu cultivée, sa mère est autoritaire. Le gamin qui veut arrêter le football et qui joue vraiment sur les jeux vidéo en ligne, etc. T'as la petite gamine qui serait en mannequin. T'as l'autre qui se trouve trop grosse. Et donc, t'as plein de destins, et c'est super intelligent. C'est super frais, et c'est surtout assez bien mis en scène, puisque c'est vraiment une question moderne de la mise en scène aujourd'hui. Comment représenter rien qu'à l'écran les textos, par exemple? Il y a beaucoup de trucs à l'heure actuelle, des séries, je pense à House of Cards, etc., ou Sherlock, qui proposent justement la mise en scène des textos d'Internet. Et là-dedans, je trouve que c'est assez bien fait, assez bien vu, et c'est pas gratuit, dans la mesure où chaque texto, par exemple, ou chaque réplique passe vraiment par l'objet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça passe vraiment dans l'image par la technologie, quoi. Pour des ressorts vraiment dramatiques, pour des nœuds scénaristiques, quoi. Non, c'est assez bien vu, c'est surtout assez original, quoi. C'est assez original.
Alors, le second film que tu as vu a été moins enchanteur.
Oui et non. Je suis allé voir donc Repas de famille, donc le film des Chevaliers du Fiel, comique du Sud, de Toulouse, il me semble. Donc, ils ont sorti leur film d'abord dans le Grand Sud-Ouest, qui fait un carton. Ce qui est absolument normal, hein. C'est vraiment un film centré sur eux. Et donc, le film est l'adaptation d'une pièce de Eric Carrière. Donc, c'est le grand du duo, hein. On retrouve tous les deux. Et c'est en gros, l'histoire, c'est qui va prendre Mémé à Noël, quoi. Donc, il y a un repas de famille. Et progressivement, ce repas de famille va complètement dégénérer, va complètement partir dans tous les sens, dans la beuverie, dans l'orgie. Voilà. Et on voit deux personnages complètement opposés. Il y a le professeur de gauche, qui est complètement feignant, joué par donc Carrière, qui adore Jean Ferrat, etc. Enfin, vraiment les clichés communistes, quoi. Et son beau-frère, lui, qui est un gros con de droite, pour le coup, il s'appelle Podgy, il se prend à la mairie, il est carrossier, il fait plein de magouilles. Et on voit comme ça, progressivement, c'est tout le plus intéressant du film, ce côté très français, quoi. Cette opposition entre la gauche et la droite.
Qui ressort bien dans les familles, exactement, notamment à Noël.
Surtout quand t'es un peu bourré, quoi. Et le film va partir littéralement cacahuète. La mise en scène, elle est signée, je crois, d'un certain Pierre-Henri Salfati. Je ne sais pas qui est ce bonhomme, sûrement un collègue du duo, mais elle est catastrophique, la mise en scène. Enfin, elle est inexistante, quoi. Le début, tu as des effets spéciaux parce que Podgy, là, le mec de droite, balance des graviers sur les pare-brises, c'est pour pouvoir les remplacer, etc., comme il est carrossier. Mais les effets spéciaux, c'est juste atroce, quand tu dis « oh là là ».
C'est un petit clin d'œil au Soudoué, ça, non?
Ouais, il y a de ça, ouais, un peu de ça.
Tu vois, quand le mec, il tape les mobilettes de ses potes et qu'après, il leur revend.
Bah, c'est un peu ça, ouais, le gros arnaqueur de base, quoi. Mais tu vois, c'est vraiment super mal mis en scène, mais quand même. Moi, j'aime bien les Chevaliers, je vais le dire, ils me font assez marrer quand même. Et donc, tu as des blagues, elles sont assez bonnes. Et mine de rien, ils essayent pas de faire une succession de sketch ou de scénettes. Ils essaient quand même de créer une petite histoire qui dénonce pas mal de travers français, quoi. Et ce qui est très drôle avec ce film, c'est un peu comme Les Ch'tis, mais en pire, en décuplé, c'est que c'est vraiment un film de province. C'est-à-dire que tout ce qui est intelligentsia parisienne, on pense qu'on veut du film, tu vois, mais tout ce qui est l'intelligentsia parisienne va forcément détester. Les scores à Paris sont catastrophiques. C'est le seul endroit où le film ne marche pas. Et c'est entièrement normal, puisque c'est un humour basé sur les accents, sur le paysage, tu vois ce que je veux dire, sur la bouffe aussi. Il y a pas mal de blagues par rapport à ça. Et après, on adhère pas, mais en tout cas, c'est quand même assez drôle. Moi, je me suis marré, c'est quand même le principal, même si la mise en scène et le jeu d'acteur est quand même assez aux fraises.
D'accord. Alors moi, je vais vous parler d'un film radicalement différent. Alors, film qui a eu à Cannes le prix Un Certain Regard. Alors toi, tu n'avais pas pu le voir, Raphaël, hein, c'est
non,
ça?
Non, il y avait un gros buzz, et effectivement, il y avait pas mal de séances pleines.
Et donc c'est White God, et c'est un film que j'ai trouvé sacrément bien, bien réalisé et original aussi pour le coup. Alors là, c'est l'histoire de Lily, le personnage principal, et de son chien Hagen. Sophia Psotta, c'est la jeune femme qui joue Lily. Et le réalisateur, j'en ai pas parlé, c'est Cornel Mutsuzzo. Alors
c'est quel bel accent.
Un peu compliqué. Hongrois, ça se passe à Budapest. C'est donc l'histoire de Lily qui est très attachée à son chien Hagen et qui va être obligée de l'abandonner parce qu'il y a une loi martiale qui est passée et qui interdit d'avoir des bâtards, des chiens croisés sous peine de grosse amende, etc. Lily qui vient juste de se retrouver chez son père qui n'aime pas trop les chiens, elle va pas réussir à le garder, donc il l'abandonne. Et là, au début, on est voilà, sur un film un peu, tu vois, assez classique entre la jeune fille, les rapports avec son père difficiles, du coup, la difficulté de perdre son chien, qui est aussi entre l'enfance et l'adolescence. Elle a 13-14 ans, elle commence à avoir envie de sortir. Voilà, en même temps, elle recherche son chien. Enfin, on est voilà, dans quelque chose d'assez classique. Le chien qui est trimballé de maître, il évite la fourrière, il se retrouve chez un dresseur. Enfin, voilà. Au début, bon, c'est pas mal fait, mais il n'y a rien de spécial. D'un coup, on part dans quelque chose de radicalement différent. Il va y avoir une sorte de dualité entre elle qui commence à découvrir le monde de la nuit, à être en clash permanent avec ses professeurs, avec son père, et le chien qui va devenir un chien de combat et du coup qui va péter littéralement un boulon. Et ça bascule au moment où ce chien-là, Hagen, il égorge le gars qu'il a récupéré à la fourrière et il libère 150 chiens aussi croisés, bâtards, quoi, dans la ville. Et là, ces chiens vont se comporter non pas comme des chiens sauvages ou quoi, mais comme une vraie bande, en fait, qui va décider de se venger. Donc, il va régler des comptes avec tous les mecs des fourrières, tous les dresseurs d'animaux. Et on a comme ça des plans assez dingues dans la ville de Budapest déserte, parce que les gens partent. Alors là, ça rappelle les oiseaux d'Hitchcock ou quoi. C'est vraiment les chiens qui prennent possession de la ville.
On dirait la planète des singes, même.
Alors, il y a un côté planète des singes, quoi. Sauf qu'ils ne parlent pas. Enfin, ça reste des chiens. Mais les animaux sont filmés de manière assez extraordinaire. Et d'un autre côté, on a donc Lily qui, elle, est un petit peu la personne qui peut arriver à réconcilier l'espèce humaine et animale, quoi, et qui continue de chercher son chien et qui a compris que c'était un petit peu lui le chef de cette meute, quoi. Donc voilà, c'est assez incroyable. On passe de quelque chose de très classique à un truc qui devient violent, mais presque... pendant certaines scènes, on est presque dans l'horreur, quoi, où des chiens arrachent les bras de certains mecs qui leur ont fait du mal. Enfin, voilà, on est vraiment d'un coup, on passe dans un autre univers et c'est vraiment, vraiment très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, voilà, cette dualité entre l'histoire de cette fille et de son chien et comment eux deux, à un moment donné, parce qu'il y a eu un petit grain de sable, quelque chose, vont complètement, radicalement se transformer, en fait, et passer dans un autre état, quoi. C'est très, très bien filmé, il y a vraiment de l'intensité, la musique est belle, enfin, non, vraiment, il y a quelque chose dans ce film, quoi. Je vous conseille grandement d'aller le voir.
Il passe au Comédia, c'est ça ?
Moi, je l'ai vu au Comédia, je pense qu'il passe peut-être dans une ou deux salles, je sais pas trop, mais en tout cas, il a reçu un bel accueil critique et je pense que c'est vraiment un film à aller voir. Donc, écoutez, ça va être le moment d'écouter un petit peu de musique et on se retrouve pour parler du troisième volet du Hobbit, alors. Thanks to you, bravo, that was a fine show. We'll be right back.
c'est la vie.
Brume 90.7, deuxième partie de notre entretien Confluence Cinéma. Et nous allons maintenant parler de l'événement, d'un des événements en tout cas en termes blockbuster de cette fin d'année 2014, avec le troisième volet des aventures du Hobbit. Alors c'est quoi le titre de ce film ?
La bataille des cinq armées. Donc ça a pas mal changé ces derniers temps, le film a été... décalé par rapport à sa sortie initiale qui devait être au mois de juillet, pour répéter finalement le coup du Seigneur des Anneaux, tu sais, trois films en trois ans qui sortent à peu près à Noël. Et déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, comme ça, qui me vient à l'esprit avec le troisième Hobbit, c'est que je me suis dit quand même, j'ai vachement vieilli. Tu te dis que le temps est passé par là, tu te dis que c'est la fin d'un cycle en tant que cinéphile, tu te dis que ça fait 15 ans que le Seigneur des Anneaux est sorti. Et que Peter Jackson maintenant va aller voir ailleurs, quoi, tout simplement, quoi.
Parce que, alors, pour faire un petit rappel quand même pour ceux qui seraient passés à côté de la littérature de Tolkien ou des premiers. Donc, historiquement, Bilbo le Hobbit, c'est le premier livre qui a été écrit, en fait.
De manière en plus oui, chronologique, c'est ça, oui.
C'est ce qui se passe avant. C'est un volume et Le Seigneur des Anneaux, c'est en trois volumes.
Voilà, c'est ce qui se passe après, du coup. Et donc, la trilogie que l'on a actuellement, le troisième étant évidemment un préquel par rapport au film sorti initialement de Peter Jackson en 99, il me semble, 2000-2001, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, non ?
Ouais, je ne sais plus exactement les
dates. J'étais jeune à l'époque, donc c'était vraiment même le début de ma cinéphilie et ça marquait voilà, tout un pan d'une génération. Je sais que moi, j'ai fait la fac, énormément de gens sont venus en faculté grâce
au Retour du Roi. Oui, parce que eux, c'est les neveux, hein, c'est ça, de Frodo, de... ceux qui partent en quête, là.
Oui, alors oui, Frodon, dans Le Seigneur des Anneaux, en fait, est le neveu de Bilbon, qui est donc le héros du Hobbit dans les trois volets.
Et alors, là, le premier Hobbit, c'était plus un petit peu sur le début de la quête, c'est ça ?
C'est ça, le voyage inattendu, comment Gandalf va réunir une bande de nains, justement, qui veulent récupérer leur trésor qui est protégé par un dragon. Il leur faut un cambrioleur. Et Gandalf propose donc son ami Bilbon, qui est donc un semi-homme qui vit à la comté. C'est le premier volet, ça. Le deuxième volet, c'est vraiment la confrontation avec le dragon qui est Smaug, qui est vraiment la star de cette trilogie, c'est un peu comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui est vraiment la... magnifiquement interprété en performance capture par Benedict Cumberbatch, qui est un acteur qui joue Sherlock Holmes. Je ne sais pas si tu as vu la série,
ouais,
Sherlock,
bien sûr, ouais.
Qui est très élégante, une sorte de Christopher Lee un peu moderne comme ça. Et là, c'est, le film démarre déjà, c'est hallucinant en termes de narration, ce qui est assez rare pour le souligner. Ça commence en fait par un climax. Alors, un climax, généralement, c'est le moment le plus intense d'un film qui se situe généralement avant la fin.
Là, tu parles du second. Hein.
Non, du troisième.
Ah, de
ça qui est dingue. D'accord. Il commence en fait, si tu veux, par la fin du second, en fait, au début du 3. En fait. Et tu t'attaques direct par l'attaque de Smaug. Sur un village, et tu te dis, n'importe quel metteur en scène classique aurait mis ça en fin de film, quoi. Lui, non, il attaque direct avec ça. Il y a peu de metteurs en scène qui peuvent se targuer d'une narration pareille. Il y a peut-être John Woo, il y a Spielberg dans un autre genre, il y a James Cameron, et il y a lui, quoi. Et le film, déjà, je suis fan ultime de Peter Jackson, c'est un immense metteur en scène, des batailles, mais homériques, d'une générosité, d'une jouissance absolue. Enfin, quiconque aime cet univers-là va se régaler une fois de plus. On retrouve toute sa patte et on se dit que le bonhomme, il en a encore gardé sous la chaussure, quoi, pour éclater le tout, quoi. Il a encore des idées, encore des nouveaux univers, des nouvelles stratégies militaires, etc. Et tu te dis quand même que. Là, je vais être un peu méchant, que tous les geeks qui vénèrent à l'heure actuelle toutes ces marveleries, toutes ces bêtises que l'on a depuis quelques temps, qui sont complètement passées à travers, parce que personne n'en parle, hein, de The Hobbit. Hein. On est à peu près les seuls, comme ça, que j'entends, à part peut-être 2-3 grands journaux qui en parlent, la sortie, bizarrement, est assez confidentielle quand même. Peut-être qu'il y a aussi un effet d'usure avec le temps qui est peut-être aussi normal. Hein. C'est le 6e film de la saga. Hein. Mais voilà. On dirait que Jackson dit c'est moi le patron, mais avec une générosité incroyable, quoi, avec un côté enfantin, un plaisir enfantin d'offrir un vrai spectacle populaire pour tout le monde, avec des vrais effets spéciaux, tu vois ce que je veux dire, qui sont mis dans l'écran, qui sont pas ailleurs, et qui respectent totalement, encore une fois, l'œuvre de Tolkien, quoi.
Et alors, Bilbo, donc, dans cette partie, donc, ça commence par l'attaque du dragon, et ensuite, ça amorce aussi la grande bataille finale, quand même.
Ouais, c'est exactement ça, donc, sans vouloir trop dévoiler, disons qu'il y a un truc avec le dragon, et que par la suite, la montagne Erebor, donc l'ancienne cité des nains, va être convoitée par tout le monde. Par les elfes, par les orques, par les nains, et donc il y a 4 armées, je ne savais pas qu'il y a la 5e parce qu'elle est vraiment super forte, quoi, la 5e armée, qui vont s'affronter pour avoir cette cité, quoi. Donc t'as en gros la scène d'action, la bataille, elle dure 1h30, quoi. Et c'est d'une voilà, c'est comme à l'époque John Woo quand il faisait Hardball, quoi. Tu vois, c'est une scène d'action qui te dure 1h30 et c'est que du spectacle, voilà. Alors après on adhère pas, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est quand même du spectacle total, c'est du vrai cinéma avec une mise en scène vraiment très très fluide dans l'action. Il y a une séquence qui est hallucinante où Legolas, par exemple, pour tenter de tuer le chef des orques, tue un troll qui est géant, et c'est vraiment du burlesque, on dirait du Buster Keaton moderne, fait tomber en fait l'orque, qui tombe lui-même sur une tour, qui tombe après dans une falaise, il court sur la falaise, la tour en même temps se détruit progressivement, il arrive à monter jusqu'à son ennemi, c'est vraiment hallucinant. Et t'es comme ça captive comme ça de la mise en scène de Jackson, t'es vraiment accroché à ton fauteuil.
Et alors, est-ce que Jackson, justement, on en parlait, qui a finalement réalisé des films depuis quasiment 20 ans autour de Tolkien, 15 ans. Ouais. 15 ans. Est-ce que justement il utilise les nouvelles technologies qui ont quand même beaucoup bougé depuis 15 ans ?
Ben, il a du coup surtout perfectionné la performance capture qu'on avait déjà avec Gollum. Hein. C'est l'un des premiers à avoir fait ça à l'époque avec Andy Serkis, hein, qui est vraiment le roi de la discipline. Hein. Et là, pour le coup, les effets spéciaux sont de plus en plus forts et il développe de nouvelles technologies, notamment le HFR. Je n'ai pas eu la chance de le voir comme ça. Il y a que le Pathé qui le diffuse, si vous voulez le voir comme ça, à Lyon, hein, le Pathé Bellecour. C'est une nouvelle technologie, en fait, avec beaucoup plus d'images à la seconde. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est 48 images à la seconde pour une certaine fluidité. Donc, si vous voulez voir cette technologie, James Cameron aussi est en train de réfléchir à ça sur Avatar. Si vous voulez voir ça, il paraît qu'il faut quand même quelques minutes avant de s'habituer. Ça, c'est un petit côté nauséeux, voilà, visuellement. Mais après, c'est vraiment une... comment on pourrait dire ? Tu rentres dans l'univers, c'est ça. Tu es directement dans l'image et c'est vraiment la force de la mise en scène de Peter Jackson. Et comme je te l'ai dit, on sent vraiment que c'est la fin d'un cycle. Le bonhomme, apparemment, déjà, il y en a, c'est un peu normal, il y en a un peu marre. Ça fait 15 ans qu'il est que sur Tolkien, quasiment. Il a quand même fait 7 gros films d'affilée en comptant King Kong aussi. Love Lee Bone, c'était un film un peu indépendant. 7 gros films d'affilée. On sent que c'est la fin d'un cycle. On sent qu'il veut aller vers autre chose. D'autant plus que les droits sont assez bloqués sur le Silmarillion, qui est encore un autre opus de Tolkien. Hein. Les ayants droit ne veulent pas du
mais
tout.
Mais qui n'est pas la suite, quoi.
Non, c'est encore des appendices encore sur l'univers de la Terre du Milieu, avec encore d'autres histoires comme Sauron, etc. Mais je n'ai pas envie de dire trop de bêtises. Hein. Je ne suis pas un grand connaisseur de l'univers de Tolkien. Hein. Je sais qu'il y a des très grands fans et je n'ai pas envie de les choquer, dire des bêtises. Et donc, du coup, les droits sont un peu bloqués. Donc, apparemment, ce serait vraiment le dernier, pour l'instant, volume de ses aventures en Terre du Milieu, quoi. Et Jackson va se diriger maintenant vers Tintin 2 apparemment.
D'accord.
Avec Spielberg et surtout un film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale, un film qu'il a depuis longtemps en projet. C'est très intéressant de le voir là-dedans sur des bombardiers qui avaient pour mission d'exploser en fait les barrages ennemis allemands. Donc on va voir ce que ça va donner, vers quoi ça va se diriger, mais en tout cas moi ce que je peux te dire c'est que c'est très beau. Enfin, moi, ça m'a ému quand même dans la mesure où voilà, tu sens
les acteurs sont costauds.
Ouais, bah ça, comme d'hab, ils sont tous au taquet. Surtout Ian McKellen qui est là, Christopher Lee encore qui est à 95 ans, il est encore là et ça rappelle plein de souvenirs. Tout un pan du cinéma est évoqué. T'as une séquence hallucinante sur la glace qui rappelle Dracula aussi avec Christopher Lee. Et tu te dis voilà, moi j'ai bien grandi quand même, j'ai bien vieilli et ça fait un peu mal au cœur quand même, tu vois, de d'abandonner cet univers là, quoi.
D'accord. Eh bien, écoute, merci bien. On va passer à la musique et on se retrouve pour parler de l'univers de certains grands films sur l'espèce animale. Bling, bling, bling.
And then you run into Jah saying,
Brume 90.7, dernière partie de l'entretien Confluence Cinéma, 19h, à l'heure où le reste des médias vous parle d'informations, de politique, de Lazarevitch et d'autres actualités. Nous vous parlons cinéma et c'est le moment de la troisième partie. On va donc vous revenir, comme on l'a dit, sur les films Les Oiseaux d'Hitchcock, les grands films un petit peu terreur animale. Mais avant ça, Monsieur Vdaouche veut faire une mise au point, oui. Un communiqué sur le film dont on vient de parler. Et il n'est pas d'accord du tout avec Raphaël. Non. Alors, on lui laisse la parole.
Je sors tout juste de la projection, donc c'est vraiment une critique à chaud, mais je veux dire tiède plutôt. Dès le départ, moi, j'ai un grand fan de Peter Jackson. Je pense que tout le monde le sait, tout le monde me comprendra là-dessus. Je trouve que cette nouvelle trilogie Seigneur des Anneaux, qui est adaptation de Bilbon, qui est qui est la première œuvre de Tolkien dans cet univers Terre des Milieux, qui à la base est un roman enfantin. Depuis le début, c'est une arnaque, parce qu'adapter un roman de 146 pages en 3 volumes de 3 heures, il y a forcément des défauts, et ces défauts majeurs, c'est au niveau de la narration, c'est des grands passages à vide et surtout un traitement des personnages trop en roue libre. Je trouve qu'il y a des personnages comme Gollum qu'on voit au début, qu'on ne revoit plus durant tout le reste de la trilogie. Le personnage de Saruman qui apparaît de temps en temps, qu'on ne revoit plus. Et au final, qu'est-ce que c'est? C'est un film, certes. On passe un beau temps, les 2h20, on ne les voit pas passer, ça c'est clair. Mais forcément, quand on voit ce film, on ne peut parler de ce film sans penser à la première trilogie qui arrivera par la suite. Et on est obligé de faire un comparatif. Alors, toutes les personnes disent que la mise en scène est géniale, waouh! C'est ceux qui posent une certaine politique des auteurs sur Peter Jackson et sur d'autres metteurs en scène, comme quoi le dernier film est forcément meilleur que le précédent. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, vraiment, loin de là. Le film n'est pas mauvais, mais il est largement inférieur par rapport à tout ce qu'il a fait auparavant. Sur ce film, Peter Jackson, il tourne ses plans avec un frein à main vraiment très très élevé. Et je trouve que c'est très enfantin par rapport à la première adaptation. C'est très mal adapté. Je continue à dire que ce film a été réalisé pas par Peter Jackson, mais par Guillermo Jackson ou Peter Del Toro. Voilà, j'aimerais bien que Peter Jackson revienne à autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Alors que son dernier bon film pour moi, c'était King Kong. King Kong, c'était un projet depuis de longues dates qu'il voulait adapter. L'Hobbit, c'est la continuité du Seigneur des Anneaux, on ne peut pas me dire l'inverse. Hein. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? J'aimerais bien que maintenant, il se remette à penser à une nouvelle mise en scène, à des films un peu plus, moins grand spectacle, un peu à la Lovely Bones, même si ça a été un échec, c'est un film que j'aimais beaucoup. Voilà, j'aimerais bien que Peter Jackson revienne à du cinéma un peu plus intellectuel, un peu tout aussi spectaculaire, et qu'il montre vraiment ce qu'il peut faire. Mais je ne peux pas laisser passer ça, entendre des gens dire que c'est extraordinaire. C'est remettre à plat tout l'excellent travail qu'il a fait durant ce tout premier film. Hein. Je peux pas dire ça, désolé, je peux pas laisser dire ça. Pour moi, cette trilogie est une imposture. C'est pas mauvais à tous les points, mais c'est quand même, il y a rien de spectaculaire. Il y a pas un seul plan qui est super, qui est égal à un plan ou à une séquence de la première trilogie. Voilà.
Ben voilà, chers auditeurs, là, on est vraiment pour le coup dans une émission classique débat avec deux visions assez différentes de ce film, et c'est très bien. Alors maintenant, on va passer à autre chose, et justement, on va laisser la parole à Hakim, parce que c'est un grand connaisseur d'Alfred Hitchcock. Alors moi, pour ceux qui n'étaient pas à l'antenne tout à l'heure, j'ai chroniqué un film que je conseille d'aller voir, qui s'appelle White God, et qui est plus ou moins la prise de possession d'une bande de chiens errants qui prend possession d'une ville suite à un arrêté qui interdit les bâtards. Alors, il y a quelque chose de aussi très politique là-dedans, finalement, parce que, bien sûr, c'est aussi une critique de la xénophobie, une critique aussi de ceux qui utilisent les animaux à des fins, de les faire combattre ou de les utiliser pour faire des expériences, etc. Bref, voilà, on a cette bande de chiens, je ne vais pas revenir là-dessus. Bien sûr, le film fait référence à pas mal de choses, notamment aux oiseaux d'Alfred Hitchcock. Est-ce que tu peux nous parler de ce film et oui. de ce qu'il y a derrière aussi ce grand film?
Oui, parce que c'est vrai que alors, Les Oiseaux était réalisé en 63. Hitchcock adapte une nouvelle de Daphné du Maurier qui avait écrit Rebecca et que Alfred Hitchcock avait déjà adapté dès son arrivée à Hollywood en 40. Et ce qui a intéressé Hitchcock, c'était le défi de filmer des oiseaux. Ça aurait été des moineaux, des merles, des mouettes. Ça aurait été des vautours, il le dit dans son livre d'entretien avec Truffaut, ça ne l'aurait pas intéressé, mais filmer des oiseaux qu'on voit au quotidien, qui peuvent devenir meurtriers, voire inquiétants, plutôt l'inverse.
C'est
plutôt.
Des corbeaux, hein, non
Il y a des corbeaux, il y a des mouettes, il y a des merles, enfin, différentes choses. Donc ça l'intéresse, c'est surtout l'aspect technique. Bon, j'adore Hitchcock, je pense que le film fait partie de ces classiques qu'on ne peut pas renier, mais je trouve que le film a beaucoup envie de parler des effets spéciaux, faut être quand même net. Comme quoi, moi j'adore un auteur, j'adore un réalisateur, mais je peux quand même mettre des émettes sur des films que j'ai aimés, que j'aime toujours. Et donc, à l'époque, c'est Jean Nouchet qui en parlait il y a deux ans quand il était venu à la rétrospective Hitchcock et à l'Institut Lumière. Quand le film est passé à Cannes, qui est hors compétition, tout le monde y a vu une petite influence de l'Union soviétique. On était en période de guerre froide. Et effectivement, à un moment donné dans le film, quand tous les protagonistes se réunissent dans le bar de Bodega Bay, qui se trouve au nord de San Francisco, une personne fait référence à l'ennemi soviétique. Et il y a eu tout ce petit sous-texte qui a été développé qui a été souligné par la presse, mais également un petit côté écologie aussi.
Parce que rafraîchis ma mémoire, les oiseaux se mettent à attaquer.
D'un coup, il n'y a pas d'explication.
Il n'y a pas d'explication.
Le film se termine. Les trois protagonistes principaux partent en direction de San Francisco dans un décor apocalyptique rempli d'oiseaux, clair de lune. Et voilà. Et c'est un film qui va bien sûr terroriser des mondes à l'époque. Hein, donc maintenant, ça fait un peu rire. Mais ça va surtout, on va dire. Engendrer une nouvelle voie, à savoir le film, alors je sais pas comment on peut appeler ça,
d'attaque
d'animaux.
Même La Nuit des Morts Vivants de Romero s'inspire quand même de la construction
si
scénaristique.
Oui. Mais l'autre grand film qui va arriver 12-13 ans après, qui va mettre en scène un animal qui va terroriser les gens, c'est Les Dents de la Mer, avec le requin qui va terroriser un peu tout le monde. Et là, par contre, va naître toute une flopée de films. Alors, il y aura Orca, il y aura des films.
Cujo, même, dans d'autres trucs.
Oui, voilà. Bah, Cujo, ça peut être pas
mais,
mal. Ça.
Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que The White God, je m'appelle jamais, c'est White Dog.
Non, c'est White God. C'est pour ça qu'on a tendance à switcher.
De ce film-là aux oiseaux, à chaque fois, l'animal représente quand même quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est souvent un sous-texte politique. Par exemple, on prend La Planète des Singes, c'est quand même une métaphore de la ségrégation des Noirs, etc. On prend King Kong, de l'esclavage. D'une bestialité refoulée chez les humain. Et on pourrait en citer des tas comme ça, des Dents de la Mer, Cujo. Et moi, j'aime beaucoup parler d'un film français, d'un metteur en scène que tout le monde oublie, qui est vraiment absolument génial, qui est Alain Gissua.
Non, que tout le monde n'oublie pas, mais que tout le monde. Non, je dirais
que personne
que
ne cite alors.
Voilà, que personne ne connaît plutôt.
Oui, c'est encore pire.
Voilà.
Alain Gissua qui est venu à l'Institut Lumière d'ailleurs, pour faire une rétrospective il y a de ça bien 10 ans.
Tu veux que je t'en mette un. Je t'en bouche un trou hein. C'était, si je peux me permettre, c'était le mari de la tante d'un de mes meilleurs amis.
Alain Gissua ?
Eh oui.
Ah,
mais je l'ai jamais rencontré.
C'est le voici d'Aouch ce soir.
Je lui ai rendu pas sur Facebook, moi, Alain Gissua. Il m'a répondu à un gentil message que je lui ai envoyé. Et c'est un metteur en scène brillant.
Il est décédé ?
Non, il est toujours vivant.
Ah, il est toujours vivant.
Oui, et il a 85 ans. Et il a fait un très bon film qui s'appelle Les Chiens, qui est prophétique du Front National en France. C'est l'histoire, en fait, d'un médecin, incarné par Victor Lannou, qui arrive dans un petit bled. Et il s'aperçoit très, très vite qu'il y a beaucoup de noirs, de gens issus de l'immigration, qui viennent dans son cabinet parce qu'ils sont mordus par des chiens. Il ne comprend pas du tout. Il mène un peu l'enquête, il tombe sur un vendeur de chiens, donc joué par Gérard Depardieu, qui joue sur la terreur, qui fait peur aux gens en leur disant prenez mes chiens, vous allez vous faire alpaguer par les immigrants, etc. quoi. Et donc prenez mes chiens. Et on comprend très très vite que ce bonhomme en fait a des intentions politiques, qui veut devenir en fait le maire du village. Il a tourné à l'époque à Marne-la-Vallée, juste avant que Disney ouvrait. Donc du coup, il y a un côté ultra futuriste dans le film. Et les chiens, ils sont montrés, je pense, vraiment de la même manière que le film que tu as évoqué.
Et le film a été tourné quand ?
Les années 80, je ne sais plus exactement.
Donc au moment où le FN monte.
Ouais, c'est ça exactement, les dates correspondent. Et c'est un film qui est admirable. Et Alain Gissua est un grand signal justement de toute cette branche, on va dire, fantastique française. Quoi. C'est un film que je vous recommande vraiment, quoi.
Alors, on peut parler, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent parlé de ces films-là. Les King Kong, vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment c'est né, qu'est-ce que ça veut dire, combien il y a eu aussi d'épisodes.
Alors, il y a le premier qui est pour 33, moi l'unique et le seul, celui de 1933. J'ai oublié le nom des metteurs en scène.
Marianne Cooper, Marianne C. Cooper, et l'autre, je m'appelle jamais.
Voilà. On a cette image où il est accroché
l'Empire State. Oui, alors, c'est vrai, effectivement, il y a un renvoi de l'image de l'esclavagisme, effectivement. Oui, qui était souvent traité dans les critiques, dans les analyses. Non, c'est vrai que moi, je n'ai pas beaucoup lu, mais c'est vrai que j'ai jamais lu vraiment d'articles théoriques sur ce film. Et c'est vrai que cette image revoit effectivement.
Mais il a réussi aussi déjà à l'époque à renouveler tout un esthétisme comme les Nibelungen, Le Monde Perdu, enfin tous ces trucs qu'on a eu, parce que c'est des dinosaures, mine de rien, dans King Kong, on l'oublie un peu. Oui. Et que Peter Jackson lui va remettre justement sur le devant de la scène.
Alors, dans la version 33, il n'y a pas beaucoup de. Si, il y a une séquence avec un dinosaure.
Effectivement.
Mais c'est pas aussi appuyé que dans la version de Peter Jackson.
Puis après, il y a la version 76, qui est très mauvaise avec Jessica Lange à la place
elle est
ultra kitsch quoi, en fait.
Elle est kitsch oui, mais de là jeter le produit à la poubelle
c'est pas un bon nom.
Oui,
avec Jeff Bridges et il y a donc après en 2006 il m'amuse le Peter Jackson je trouve admirable parce qu'il parle justement lui de la mise en scène il parle du cinéma en fait. C'est Orson Welles qui filme Rocking Kong son film.
Oui mais attends effectivement c'est personne Jack Black qui va sur l'île pour faire son reportage.
Jack Black est le sosie d'Orson Welles.
Oui, certes mais bon c'est quoi, c'est 10 minutes dans le film fait 3 heures tout long, il y a pas.
Non mais le message même et c'est très intéressant par rapport à Jackson, par rapport au Sanzan aussi. Ce qui est très intéressant c'est que le message de King Kong c'est jusqu'où tu es prêt à aller pour du spectacle. C'est ça le message même la morale de son film. Jusqu'où tu es prêt à aller et on voit jusqu'où il est prêt à aller, il prend King Kong, il l'emmène à New York, il le filme etc. Et c'est un film que je trouve admirable sur la question du cinéma en tout cas. Enfin sur cette question là.
On est d'accord.
Oui, Hakim.
Non, mais c'est tout.
Il y a la planète des singes aussi qu'on peut citer, qui est très important.
Oui, la planète des singes.
La saga en général.
Et précisons que la planète des singes, c'est l'adaptation d'un roman français.
Ouais, de Pierre Boulle.
Voilà, exactement.
Comme Gwen, mais des fois, il faut le dire, en France, on a aussi du fantastique, des fois très très bien et d'autres qualités. Quoi.
Ah, c'est pas Jean-Pierre Andrelon que tu diras ça. Hein.
Oui, mais on le dit pas.
Ouais, alors, resituons un peu la planète des singes, là.
Le roman est quand même assez différent des versions filmiques qu'on a eues.
Il est très court aussi.
C'est plus les pierres à feu, c'est-à-dire que c'est une sorte de monde. Enfin, pareil, t'as des astronautes qui arrivent sur une planète, tout ça. Et en fait, c'est carrément une société humaine, mais avec des singes. Donc, ils roulent, ils ont des travaux, enfin, ils travaillent, ils ont des petits chapeaux, un peu comme les pierres à feu, quoi. Et du coup, le film à l'époque est écrit par. J'ai oublié son nom, le créateur de Rod Serling, le créateur de La Quatrième Dimension, qui va adapter très très bien donc, le bouquin de Pierre Boulle, avec un côté beaucoup moins futuriste, beaucoup plus primal, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus.
C'est à la fin qu'on comprend que c'est un film de science-fiction et qu'on est dans le futur.
Et c'est une fin justement très quatrième dimension, parce que La Quatrième Dimension, la série à l'époque, il y avait toujours un cliffhanger final qui retournait tout le truc, et cette image, qui est la plus connue de la planète des singes.
Oui, mais le problème, c'est que du coup, c'est un plan qu'il faut surtout pas dévoiler si on n'a pas vu le film, et malheureusement, il est sur la fiche du film.
Tout le monde le connaît, ouais. C'est un plan ultra iconique.
Voilà, à la fin, Charleston arrive.
C'est vrai que ça flingue un peu le film. Charlton moi, j'ai eu la chance de le voir petit. Et du coup, et c'est vrai que je me rappelle de ce plan qui m'avait.
Charlton Heston qui, pendant 2 heures, est sur une planète habitée par des singes, des hommes singes. Et persuadé qu'il est arrivé sur une autre planète que la planète Terre. Et à la fin, il est sur une plage. Dernier plan, c'est quoi ? C'est la Statue de Liberté qui est engloutie dans le sable. Et il comprend que des bombes ont pété pendant qu'il était dans l'espace.
Il y a celui de Burton qui est très mauvais aussi. D'ailleurs, je vous recommande, si vous pouvez trouver ça sur Internet, Kevin Smith, il a été approché pour écrire une version. Enfin, c'est un peu compliqué.
Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'est mauvais. C'est pas forcément un très bon Tim Burton, mais ça n'en fait pas un film mauvais.
En tout cas, la fin est incompréhensible. Justement, c'est pas du tout la même par rapport celle du bouquin. Elle est plus ou moins dans la veine du film de Schaffner. J'ai oublié le nom du metteur en scène. Il faut quand même le souligner. Franklin Schaffner pour le premier Planète des singes, et celui de Burton est un gloubi-goulba à la fin. On comprend rien et qui est très très bien réactualisé, je trouve, à l'heure actuelle. Un côté très humain justement qui revient sur le côté. Charlton Heston à l'époque, faut dire, était un grand défenseur de la communauté noire. Parce qu'on pense que c'est simplement un fou avec des flingues républicains. Non, c'était un homme qui a beaucoup lutté pour l'égalité des races.
Oui, il a marché avec Martin Luther King, je crois.
Exactement, ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait La Planète des singes. Il réactualise ça, je trouve, de manière très, 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 très intelligente les derniers, là, les deux derniers, donc le commencement et non, les origines et, et l'affrontement.
Ouais. Sauf que les origines, chance de beginning.
Mais j'ai du mal à accéder à ces titres.
Mais là, avec les nouvelles versions, c'est différent. C'est les singes qui sont.
Plus humains que les hommes, en fait.
C'est, non, à la base, c'est les singes qui sont élevés par les Français, j'allais dire, par les humains.
Par James Franco, dans
Franco,
le premier.
Qui vont devenir très intelligents et qui vont finalement dépasser l'humain.
Avec un leader qui est César, justement.
Et moi, j'avais un peu des réticences sur le premier. Bon, voilà. Et je trouve que le deuxième, on n'en a pas parlé parce qu'il est sorti cet été, c'est quand même assez remarquable.
J'en avais parlé au début.
Déjà,
au niveau
de la presse technique, je trouve qu'il y a une évolution dans la motion capture, je trouve. Pourquoi je reconnais
les égalités. J'en avais parlé à la rentrée.
Et là, effectivement, voilà, c'est la confrontation entre l'homme et le singe, tout un symbole. Puis
c'est l'inversement qui est très intéressant, c'est que les humains sont de plus en plus bestiales. Et les singes de plus en plus humains, quoi. Ça qui est absolument.
Bon, même si t'as quand même dans la troupe du singe, t'as quand même le leader qui est humaniste, pacifiste, et t'as forcément à côté une personne un peu plus sombre, un belliqueuse, peu plus méchante, belliqueuse, et qui peut être tout aussi cruelle que l'homme.
Parce qu'au final, un singe
peut tuer un homme aussi.
Il y a la même dichotomie aussi chez les humains, hein, puisque t'as le personnage principal et t'as Gary Oldman qui est là pour faire la guerre, etc. Quoi.
Tout ça pour dire que finalement, l'homme et le singe sont à égalité.
Oui. Hein.
Ok, messieurs, eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette émission riche en informations, en actualités. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une des dernières émissions de l'année où on parlera justement des derniers films qui vont sortir sur 2014.
Eh oui.
Oui.
Bonne semaine, à très bientôt.